Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les habitués, puis les visiteurs, en tout cas soyez vraiment à l'aise parmi nous. Ce matin, je vous propose de continuer notre série sur Corinthiens, que nous avons intitulée « Différent ». Vous êtes-vous déjà cogné le petit orteil ? Vu la manière dont vous réagissez, minuscule membre, hein, qu'on remarque à peine jusqu'au jour où on heurte le coin d'un meuble. Et là, tout le corps semble s'arrêter. On boite, on grimace, peut-être on hurle, on se fige. Le simple fait de marcher devient un peu plus compliqué. C'est fou de voir comment un petit membre peut impacter l'ensemble du corps. Et cette image nous rappelle une vérité essentielle que nous allons notamment voir ce matin. Chaque partie du corps a de l'importance. Même celle qu'on juge la plus discrète, la moins visible. La semaine dernière, nous avons commencé à explorer le chapitre 12 de cette lettre aux Corinthiens où Paul enseigne sur le spirituel, sur les dons spirituels. Et on a vu que la vraie spiritualité, c'était de confesser, c'était de reconnaître Jésus comme Seigneur. Et que c'est Dieu qui nous accorde toute une diversité de dons. Et qu'ils viennent tous d'un même Dieu, d'un même esprit, pour un seul but, édifier, encourager les autres. Et Paul, l'apôtre Paul, va poursuivre cette réflexion en prenant cette image très concrète du corps humain. C'est probablement une des images la plus connue dans la Bible pour parler de l'Église. Et pour cause, cette image nous dit tout. Elle évoque la question de l'unité. Elle évoque cette question de diversité qu'on avait évoquée la dernière fois. Elle évoque cette question de notre interdépendance, de ce besoin des uns des autres. Et Paul va nous montrer, comme pour un corps, combien dans l'Église, chacun a sa place. Chacun a sa fonction, chacun a son importance. Mais il ne fait pas que de nous enseigner, il vient aussi nous interroger, nous mettre au défi comme il le fait pour l'église de Corinthe. Est-ce que nous reconnaissons la valeur des autres dans l'église? Ou une autre question pourrait être, est-ce que nous acceptons la place que Dieu nous donne? Sommes-nous prêts à résister à la tentation de nous comparer? À cet orgueil de se dire, moi, je suis important, vous l'êtes un peu moins. Et ça, c'est des situations que Paul nous présente depuis le début de sa lettre, de cette église qui se compare, de cette église qui met certains sur un piédestal pendant que d'autres, non. Alors, je vous invite à prendre ce texte, et on est dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 31. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer la voie par excellence. Jusqu'ici, simplement la parole de Dieu. Alors on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu la semaine dernière, autour de cette grande question du spirituel, des dons spirituels. Et cette question va nous accompagner jusqu'à la fin du chapitre 14. À Corinthe, le désordre était tel que certains s'amusaient à hiérarchiser les personnes, à hiérarchiser les dons, à chercher à distinguer de ce qui était spirituel de ce qui ne l'était pas. Comme si certains avaient un accès un peu VIP à l'esprit ou à une vie agréable à Dieu, comme s'il y avait des catégories et d'autres pas. Mais Paul veut les amener à une juste compréhension, et c'est pour cela qu'il utilise cette image et ce texte qu'on connaît peut-être assez facilement avec cette image magnifique du corps humain. On peut tous comprendre la puissance de cette image. Qui n'a jamais été émerveillé par la complexité du corps? Ma fille récemment, elle a appris à l'école le système digestif. Waouh, compliqué, c'est complexe, et puis waouh, tous ces organes qui fonctionnent entre eux. Chantal parlait récemment de l'œil, waouh, de la beauté de l'œil, etc. Et tout, et le tout de notre corps forme un ensemble cohérent, coordonné, interconnecté, essentiel, et on pourrait dire créé à l'image de Dieu. Et Paul dit, ça c'est comme l'Église, pour bousculer les Corinthiens. Il y a un cœur, un seul, mais animé par un seul esprit, mais avec des fonctions différentes, toutes vitales. J'ai donné pour titre ce matin, « Et toi, t'es où ?» En fait, Paul nous rappelle à travers ce passage une vérité qui est forte, c'est que par le Saint-Esprit, Dieu unit les croyants dans un seul corps, avec des dons variés, pour accomplir une mission commune. Dieu nous unit, en tant que croyants, dans un seul corps, avec des dons variés, mais pour accomplir une mission commune. Alors premièrement, j'aimerais regarder avec vous les versets 12 à 14, tous ensemble, dans un seul corps. Ça c'est le premier point, comme la semaine dernière, l'unité dans la diversité. Et il prend cette image du corps. De même que notre corps est un, mais a plusieurs membres. De même l'Église, composée de plusieurs, des uns et des autres, fait un. Et même, Paul s'y dit, même si le nombre est grand, nous formons un seul. Regardez comment Paul le martèle au verset 12 de manière assez symétrique, il dit le corps a plusieurs organes, et puis il redit les organes du corps qui sont nombreux ne forment qu'un seul corps. Il insiste, il y a cette diversité, mais il y en a une unité. Prenez un puzzle de 1000 pièces. Je sais pas s'il y en a qui sont amateurs de puzzle, Il peut être presque terminé, mais s'il vous manque une pièce, le tout est incomplet. Et c'est frustrant. Vous vous dites, ah, c'est pas possible, elle est où? Même la plus petite pièce, même si elle est monocolore, elle est inutile. Elle est utile, pardon. J'ai vu, c'est bien, vous suivez. Elle est essentielle à la cohérence de l'image finale de notre puzzle. C'est pareil pour l'Église. Je pourrais parler du repas. On pourrait oublier un des ingrédients et au final, le plat sera différent. Et c'est le problème des Corinthiens. Ils avaient fait des dons, ils avaient fait de certaines qualités un terrain de comparaison. Certains se mettaient en avant et d'autres étaient rabaissés ou même exclus. Et Paul leur dit, nous sommes appelés à faire un corps dans la diversité. On fait partie d'un même ensemble. Ne divisons pas ce que Christ a uni. Ne méprisons pas ce que l'Esprit valorise. Alors il ne parle pas juste d'une simple association d'idées ou de valeurs, il parle d'une réalité spirituelle. La diversité qu'il y a entre nous n'enlève en rien à cette unité que nous avons autour de Christ. Regardez ce verset 12, on forme un seul corps, il en va de même pour Christ. Moi j'aurais presque voulu entendre, il en va de même pour l'Église. Mais non, il dit pour Christ. Car l'Église n'est pas juste une communauté humaine, elle est le corps de Christ. Ce qui nous unit, c'est Christ. Dans la vie, on connaît tous, il y a des groupes qui peuvent être soudés, bien soudés, une famille unie, il y a des familles qui sont très unies, autour des traditions, autour du soutien fraternel, ils se retrouvent, les frangins cèdent quand l'un construit, etc. On connaît, il y a des familles unies, il y a des équipes de foot qui sont portées par une passion commune. Et l'entraînement, il y a un groupe de musique, où chacun a un rôle dans l'harmonie, je l'évoquais la semaine dernière. Vous pouvez prendre un corps d'armée, un corps militaire, où la mission dépend de la solidarité et du sacrifice de chacun, voilà, où ils font un bloc, ils font corps, ils sont très soudés. Mais dans l'Église, cette unité est appelée à être bien plus différente et plus précieuse. C'est à Christ que nous appartenons. C'est lui qui nous appelle, c'est lui que nous représentons. C'est son esprit qui nous unit. C'est plus que simplement mettre un t-shirt « Église de Wittenheim ». Il y a quelque chose qui nous rassemble et qui est profondément spirituel. C'est pour cela qu'au verset 13, Paul déclare « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps ». Ça, c'est une expression qui est unique dans le Nouveau Testament, le baptême dans l'esprit. Ça ne décrit pas une expérience mystique, mais ça décrit notre expérience lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, notre conversion. Lorsqu'on accepte Jésus, par l'Esprit, Dieu nous unit à Christ, Dieu nous unit à son peuple. Et donc, cette unité qui est créée en Jésus-Christ dépasse toutes les frontières sociales, ethniques, juifs, grecs, c'est la liste qui fait, esclaves, hommes, libres, ont tous été abreuvés du même esprit en Christ. Aucun statut, aucun passé, aucune origine ne donne plus ou moins d'accès à Dieu. On est même salut, même esprit, même Seigneur, même famille, même unité autour de Christ. Et c'est ainsi que nous formons un seul corps, une seule famille spirituelle, unie par l'œuvre de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous intègre à ce grand corps qu'il est en train de préparer. Petite application, ce qui veut dire que dans l'Église, on le verra aussi tout à l'heure, tu n'es pas spectateur. Par le Saint-Esprit, tu es intégré à un corps qui est appelé à être vivant. Tu n'es pas une pièce de rechange, ni une option de secours. Tu es placé là où Dieu veut que tu sois. En fait, on peut imaginer cette image du puzzle. Sans toi, l'image de l'église locale, est incomplète. Sans toi, un membre du corps, manque à l'appel. J'aimerais vous laisser quelques questions pour chacun, je les affiche derrière moi. Ils peuvent nous interpeller. Est-ce que tu te vois vraiment comme faisant partie du corps de Christ? Est-ce que tu te vois vraiment? Est-ce que tu vis ta foi? Et c'est un peu l'aspect sur lequel Paul est en train de marteler les Corinthiens, de manière individuelle ou communautaire. Quelle place donnes-tu à cette vie spirituelle, cette unité spirituelle dans ta vie de tous les jours? Mais je crois qu'on peut être lucide. Si Paul l'écrit là, je pense qu'il écrirait aussi pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas toujours simple de vivre ensemble. On est d'accord? On vit déjà dans une culture, je l'évoque régulièrement, mais ça fait partie de notre culture occidentale, très marquée par l'indépendance, l'individualisme. Parfois dans l'Église, il y a des tensions, il y a des blessures, il y a des incompréhensions qu'on se fait les uns les autres. Et qui peuvent nous pousser à nous isoler, à nous mettre de côté, à nous retirer. Alors il y a des raisons valables pour quitter une église. Quand l'évangile n'est pas prêché par exemple, et je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais c'est pas une raison de quitter une église à cause d'une couleur ou une remarque faite maladroitement à notre égard. Si nous faisons partie de l'église, tu es appelé à être un membre à part entière. Et dans ces tensions même qui pourraient exister, c'est Christ qui est en train de façonner son corps. Peut-être que tu te dis, moi, cette petite pièce, Moi, je suis trop petit, je ne sers pas à grand-chose. Et Paul va justement répondre dans la deuxième partie, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de conviction. C'est mon deuxième point. Tous différents, mais chacun indispensable. Et c'est les versets 15 à 20. Je vous le disais, il prend beaucoup d'humour et de sagesse. Dans un corps, tout le monde est différent. Tous n'ont pas la même fonction, tous n'ont pas le même don, mais personne n'est inutile. Et c'est très clair. Paul nous fait imaginer un pied qui se plaint de ne pas être une main. Ou une oreille qui dit « je ne suis pas un œil, donc je ne sers à rien ». Et c'est exactement ce que vivaient certains dans cette église de Corinthe. Ils se comparaient. Ils pensaient que tel don valait bien mieux que le sien. Ils s'excluaient d'eux-mêmes. Ils étaient convaincus d'être inutiles. En fait, ça c'est le fait de se comparer. Et là, moi je sais, avec mon propre corps, on se compare si facilement. On se croit inutile, incapable, etc. Et Paul répond avec force. Même si le pied pense ne pas faire partie du corps, il reste le pied du corps. Notre ressenti ne détermine pas la place que nous avons dans ce corps. Vous avez déjà vu une oreille, juste une oreille, prendre le train ou le tram à Mulhouse, non ? Une oreille sans pied, ça ne va pas loin. Une oreille qui se promène dans le parc, non. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire, c'est avec humour et avec un membre seul, quelqu'un de tout seul, ça n'a pas de sens. Un corps ne peut pas fonctionner s'il est composé d'un seul organe, même s'il est très performant. Si vous prenez le meilleur de nos organes, si vous le mettez tout seul, il ne sert pas à grand-chose. Dieu ne fait pas une erreur en nous créant ainsi, unis, mais dans une diversité tellement riche. Et ça, la science nous le confirme. Je ne sais pas si vous êtes des passionnés, mais le corps humain fascine dans tant et tant de différentes manières. Par exemple, vous prenez l'anatomie, qui va étudier la forme de nos organes. Chacun a une forme spécifique et à sa place. La physiologie montre comment tout fonctionne ensemble, comment tout s'articule, la digestion, comment on va avec la respiration, la coordination de l'ensemble. Les neurosciences, ceux qui réfléchissent, étudient comment les transmissions entre les membres. Voilà, il y a des échanges, rien n'est isolé. La médecine nous rappelle que quand quelque chose souffre, c'est tout le corps qui souffre, même si c'est juste le petit doigt de pied. Ou même si c'est quelque chose d'interne, il y a tout notre corps qui est pas bien. La génétique qui s'intéresse à l'aspect microscopique des choses, que chaque cellule contient un code précis, unique, mais qui est mis au service de l'ensemble. Un seul défaut dans ce code, et puis l'ensemble est compliqué. Le message est clair, chaque partie a un rôle. On ne peut pas dissocier les uns des autres. Il en va de même dans l'Église. Je pourrais donner une autre illustration. Si ça vous a toujours pas convaincu. Imaginez recevoir une voiture neuve, flambant neuve. Le plein est fait, l'assurance est à jour, la carte grise est à votre nom, tout brille, tout fonctionne. Mais si vous n'avez pas la clé de contact, tu ne bouges pas d'un centimètre. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné, t'a confié. Même les détails font tourner le royaume. Tu peux penser que ton rôle est petit, sans valeur, mais dans le plan de Dieu, chaque fonction a son importance. Et au verset 17, Paul insiste, « Si tout le corps était un œil, comment pourrait-on entendre ? Et si tout le corps était une oreille, comment sentirait-on les parfums ? Chaque membre complète l'autre, on est fait pour fonctionner ensemble. Se passer de l'autre, c'est comme s'automutiler, spirituellement. » De la même manière, on peut pas réduire la vie d'une église, la vie de nos rassemblements à une seule activité, à une seule fonction, à un seul rôle visible. L'église n'est pas juste louange, l'église n'est pas juste prédication, l'église n'est pas juste accueil ou logistique ou bâtiment, n'est pas juste évangélisation ou accompagnement. C'est tout ensemble. Il y a cette diversité orchestrée par Dieu lui-même. Quelques applications, Tu n'as pas besoin d'être comme l'autre, pour être utile entre les mains de Dieu. Tu es nécessaire, tu es indispensable, à ta manière. Tu as ta couleur, tu as ton style, tu as ta manière de voir les choses, et c'est voulu par Dieu. Je trouve que c'est rassurant, Et Paul le dit au verset 18, regardez, le Seigneur a placé chacun dans le corps comme il a voulu. Le Seigneur a placé chacun dans le corps comme il l'a voulu. Tu ne vois peut-être pas ton importance, mais ce n'est pas un hasard. C'est un choix souverain. Dieu l'a voulu. Il y a une place pour toi. Et sans toi, il manque la clé. Et si tu es là, c'est parce que Dieu a voulu t'y mettre. Dieu a placé. Notre traduction, Dieu a arrangé comme il l'a voulu. Les dons que Dieu a donnés, cette diversité reflète la souveraineté de Dieu, reflète le caractère de Dieu et sa sagesse. Il nous a placés là intentionnellement. Tu as ta fonction, tu as ton appel, tu as ton utilité. Je redis cette phrase, tu n'as pas besoin d'être comme l'autre pour être utile entre les mains de Dieu. Quelques questions. Est-ce que je méprise le don que Dieu m'a donné en le comparant à celui des autres? Ou suis-je frustré de ne pas avoir un rôle visible? On peut peut-être. Est-ce que je reconnais la valeur de ceux qui sont différents de moi? Attention au piège, la comparaison nous vole la paix. Le complexe d'infériorité, c'est souvent mon cas, de me comparer aux autres, me paralyse, nous paralyse. Le complexe de supériorité, si on se croit supérieur, va nous isoler. Ah, que je déteste être avec quelqu'un qui sait tout, qui dit tout, mieux que quiconque. Dieu sait ce qu'il fait. Mais Paul va encore plus loin. Il ne s'agit pas simplement d'être différent, d'être utile, mais il nous appelle à être solidaires, interdépendants les uns avec les autres. Et troisièmement, tous solidaires dans nos différences. Et on voit ça des versets 21 à 27. Paul va encore un peu plus loin, même si c'est redondant un peu. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Une autre grande vérité, Dans le corps, on a besoin des autres. On a besoin de l'autre. Personne n'est inutile. Paul renverse les choses. Il remet en place ceux qui se croient indispensables. Et c'est le problème de Corinthe. Pour ceux qui ne pensent ne rien avoir à offrir. L'orgueil spirituel. Certains pensent, je n'ai pas besoin des autres. Mais un corps ne fonctionne pas ainsi. Chacun est indispensable. Dans l'Église, on a besoin les uns des autres. C'est un principe que j'évoquais déjà la semaine dernière. On appartient tous au Seigneur, par sa grâce, par le moyen de la foi, nous lui devons tout. Mais on est utile entre les mains, dans ce corps. Si tu joues au tennis, je ne sais pas s'il y en a qui jouent au tennis, mais tu sais bien qu'une main et le bras doivent travailler ensemble. En même temps, ton œil va suivre la balle. Les pieds permettent de te déplacer sur le terrain quand vous regardez les joueurs de tennis. Même dans une simple activité comme faire du tennis, tout notre corps est impliqué. Le corps, le cœur, les poumons, enfin bref, tout. Et c'est pareil dans l'Église. C'est pareil dans l'Église. Pour chanter, comme on l'a fait tout à l'heure, on a besoin bien sûr de notre bouche, on a besoin des oreilles, on a besoin de tous les organes, et bien sûr on sait aussi que de tout le reste participe à pouvoir chanter. Et c'est pour ça que Paul va dire plus tard, notamment aux Corinthiens, au chapitre 14, « Si tous parlent en langue, sans interprétation, ça ne sert à rien. On a besoin les uns des autres pour que tout fonctionne correctement. C'est une interdépendance. C'est un principe clé que l'Église est appelée à vivre au quotidien. Alors, il y a des pièges dans lesquels on peut tomber. C'est de se dire « j'ai pas besoin des autres ». Ça, c'est l'indépendant. J'ai pas besoin des autres. Je veux faire tout moi tout seul. Ou l'autre piège, c'est de se dire, les autres ont pas besoin de moi. Ça marche bien sans moi. C'est celui qui se retire, qui pense qu'il n'a pas sa place. Et Paul, là, dans ce texte, nous montre bien au contraire. Tous les membres ont besoin les uns des autres. C'est la solidarité qui fait la force de ce corps. Alors, dans quel travers avons-nous l'habitude de travailler, de tomber? J'ai pas besoin des autres? Où les autres n'ont pas besoin de moi. C'est après pour ça que Paul développe un peu la question des membres les plus faibles, les moins honorables. On sait, hein, y a des organes internes qu'on voit pas, hein, le cœur, le foie, les reins, tu ne les vois pas, mais sans eux, tu ne vis pas. Tu ne serais pas là. Ils sont protégés, bien sûr, par le squelette, par la peau. Ils sont indispensables. De même, dans l'Église, certains dons sont moins visibles. Ceux qui prient dans l'ombre, ceux qui accueillent, qui rendent l'espace chaleureux, ceux qui font le ménage toutes les semaines. Il y a bien des serviteurs silencieux qui œuvrent dans l'ombre. Alors c'est vrai, ces membres sont parfois moins honorés que ceux qui sont mis devant. Mais ils sont tous aussi importants. Et parfois, ils méritent plus de soins et d'attention. Je parlais en introduction de se cogner le petit orteil. Inutile, l'orteil. Après ce choc, tout ton corps en souffre. Il est minuscule, mais il te fait boiter, il peut te faire boiter pendant des jours. De même, ces membres invisibles ou moins honorés peuvent avoir un impact majeur dans la vie de l'Église. Le petit orteil n'a pas le même rôle que le cœur, mais quand il souffre, tout son corps souffre. Tous les membres sont nécessaires. Et Paul nous enseigne que même si certains dons sont plus visibles, tous sont nécessaires à l'édification de l'Église. L'important n'est pas d'être vu, mais d'être là où le Seigneur nous veut. Alors je relis ce verset 26, c'est peut-être celui qui est le plus connu, mais dans son contexte, ça prend tout son sens. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. La solidarité, l'interconnexion dans l'Église. Quand l'un souffre, tout souffre. Si quelqu'un pleure, on est appelé à pleurer avec lui. Si quelqu'un se réjouit, on se réjouit avec lui. Paul nous invite à une profonde solidarité. C'est de s'engager avec les autres. C'est contre-culturel, je le disais tout à l'heure. Les interdépendances, c'est pas une faiblesse de devoir compter sur les autres. Au contraire, c'est une richesse, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a voulu. Cela renforce l'Église, cela la rend plus unie. Ça brise l'isolement, ça fortifie l'unité. Lorsqu'on écoute, lorsqu'on prend le temps d'agir avec compassion, avec empathie, ça grandit ce besoin des uns et des autres et que les autres ont besoin de nous. Alors l'Église n'est pas juste une somme d'individus isolés agissant chacun dans son coin, il y a vraiment une interdépendance. On doit fonctionner comme un corps où chacun est important. Paul est en train de montrer à cette église que la maturité spirituelle d'une église ne réside pas dans l'indépendance de se dire « Waouh, on a tel don !» Non, la maturité, mais c'est dans ce fonctionnement, dans cette dépendance mutuelle où on forme ensemble un corps de Christ avec toutes ces différences, toute cette richesse, toutes ces interactions. Question pour nous aujourd'hui. Est-ce que je prends le temps de connaître les autres membres à côté de moi ? Pouvoir peut-être porter leur fardeau. Comment je réagis lorsqu'on me partage des souffrances ou les réussites? Avec indifférence ou avec compassion? Est-ce que je choisis la solidarité, même quand cela me coûte quelque chose en temps, en énergie, en confort? Je crois qu'il y a bien des obstacles. C'est facile de le dire, sur le papier on le sait, mais de le comprendre et de le vivre. Ah, la souffrance des autres, parfois, ça semble trop lourd à porter pour soi. Ah, les différences! Il y a des différences culturelles, il y a des différences personnelles, il y a des différences parfois doctrinales. Ça peut créer des barrières, c'est pas facile. Vivre cette solidarité, on a besoin d'humilité. Pleurer avec ceux qui pleurent, sans juger, sans donner des réponses faciles, c'est pas facile. C'est facile de dire, oui, on doit vivre unis, mais dans le concret de la vie d'une église, c'est compliqué. Dieu nous a disposés les uns à côté des autres pour former ce corps vivant, dépendant les uns des autres. Et l'amour de Christ qu'on a reçu ne peut pas nous laisser indifférents aux autres. On est appelé à prendre soin des autres. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Verset 27. Porte ton frère, honore ta sœur, prie pour celui ou celle qui lutte. Je redis un peu ce que je viens de dire, ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin des autres. Bien au contraire, c'est un signe de maturité spirituelle, de se savoir entouré, de savoir besoin des uns et des autres. Après avoir exposé tout cela, Paul conclut par une révision qu'il nous a déjà fait plus haut dans le texte, hein, qu'on a lu la semaine dernière, sous la forme d'une liste de dons, afin de encore bousculer les Corinthiens et de leur rappeler que l'auteur du corps est bien Dieu. Et là, ça rappelle une autre réflexion, chacun son don ensemble pour l'édification. Vous l'avez vu, hein, à partir du verset 28 au 31, Paul va plus loin en détaillant certains dons que Dieu a placés dans l'Église. Là, il fait une espèce de liste, c'est la deuxième liste, hein, dans le même chapitre, une liste d'ailleurs un peu différente, et il commence ainsi, Dieu a établi. Dieu a établi dans l'Église. C'est Dieu qui a choisi chaque membre. C'est Dieu qui a disposé les uns par rapport aux autres. Et il commence par énumérer des dons spécifiques, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les miracles, etc. Et voici ce qui est important, c'est Dieu qui place ces dons. C'est ça qui est important de voir dans ce chapitre. Ce n'est pas nous qui décidons de notre rôle, c'est des dons, c'est des cadeaux. Quand? Comment? Combien? Beaucoup? Un peu? Tout le temps? C'est Dieu qui donne. On retrouve cette souveraineté, c'est la volonté de Dieu. Et Paul insiste sur le fait que tous sont importants. Mais on voit dans cette liste, contrairement à la semaine dernière, que certains semblent avoir une place plus importante que d'autres. On dirait qu'il fait une petite hiérarchie, premièrement, enfin. Les apôtres, les prophètes, les enseignants, par exemple, ont un rôle crucial dans l'Église. Et comme le montre aussi, par exemple, Éphésiens, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents, vous êtes au contraire concitoyens des siens, membres de la même famille de Dieu, hein, on a un peu une image différente, mais c'est pour la même chose, on fait partie. Vous avez été édifiés, sur quoi? Sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il y a cette unité, et il y a certains dons qui sont cruciaux pour cette unité. On ne possède pas tous les dons. Et je crois que c'est le point crucial que les Corinthiens avaient oublié et qu'on peut facilement aussi oublier. Ils valorisaient certains dons spectaculaires notamment, et on le verra dans le chapitre 14. Mais Paul va les corriger. Personne n'a tous les dons. Paul interroge ses auditeurs, hein, vous l'avez vu. Tous sont-ils? Tous sont-ils? C'est un peu de la même veine que à un autre de la semaine dernière, pour ceux qui étaient là. À un autre, à un autre, à un autre. La réponse qu'on attend, tous sont-ils? Ben bien évidemment non. Personne n'a tous les dons. Aucun des dons n'est clairement donné de façon universelle à chacun. Rien dans l'Écriture ne le suggère. Dieu distribue. On peut pas dire on est appelé à avoir tous ce don. Non, la parole de Dieu ne le dit pas. Imagine un chantier de construction. Il y a plusieurs parfois être dans la construction. Il y a l'architecte, il y a l'électricien, le maçon, le plombier, le peintre. Vous pouvez rajouter hein, toute la liste. Si chacun reste à sa place et ne cherche pas à empiéter sur le rôle de l'autre, la construction avance bien. Mais imagine maintenant que l'électricien veuille poser des briques. Ou que le peintre veut refaire les plans. Ça peut devenir un véritable désastre. Nous sommes appelés à respecter et à voir les rôles que Dieu donne à chacun. On pourrait utiliser l'image d'un week-end d'église. Il y a une multitude de rôles, une multitude de fonctions qui sont nécessaires. Il y a un couple qui va encadrer les enfants, il y a un frère qui va prêcher, il y a des jeunes qui vont gérer la technique, d'autres vont préparer les repas, il y a une autre qui va prier dans l'ombre, certains vont faire le chauffeur. Chacun a contribué avec son don à la réussite de ce week-end. Chacun a servi avec son don, et ensemble, le corps entier en a bénéficié. Le corps de Christ, l'Église, c'est pas quelque chose d'uniforme. C'est pas quelque chose de monochrome où on devrait voir la même couleur. C'est un corps diversifié où chacun joue un rôle unique. Le corps est incapable de fonctionner correctement sans le concours de tous. Aucun ne devrait donc s'imaginer être le plus indispensable ou le plus spirituel. Tous ont leur place. Application, hein. Quelques questions. Est-ce que je connais les dons que Dieu m'a donnés? Est-ce que je les mets au service de l'Église, au service des autres? Ou est-ce qu'ils sont en veille? Est-ce que je suis capable de me réjouir des dons, de célébrer les dons que Dieu a donnés aux autres? Comment je réagis face à des dons que je considère moins visibles? Est-ce que je les valorise? Le véritable défi n'est pas de savoir quel don est le plus grand, c'est ce que Paul est en train de dire, mais de vivre le don au bon moment dans l'Église. C'est ce qui édifie réellement l'Église. Ce n'est pas un grand don qui compte, mais le bon don au bon moment. Dieu nous a appelés à servir ensemble dans une unité parfaite pour la gloire de Christ. Et l'Église de Corinthe jetait le déshonneur en vivant n'importe comment, en hiérarchisant, en méprisant, etc. C'est une collaboration, une unité qui dépasse nos différences, qui dépasse nos dons. Et Paul termine le chapitre 12 avec cette invitation, hein. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, il va introduire le chapitre 13 qu'on connaît, qu'on lit des fois à des mariages, mais il est dans ce contexte de division et des dons spirituels, et il va parler d'amour. Et Paul va recentrer toute notre compréhension de la place de chacun. Les meilleurs dons ne sont pas ceux qui brillent. Ce ne sont pas ceux qui sont les plus impressionnants ou les plus spectaculaires. Et Paul le dit, hein, depuis qu'on partage ça, c'est ceux qui servent. C'est ceux qui manifestent l'amour. C'est ceux qui démontrent l'humilité. C'est ceux qui illustrent l'unité. Paul renverse les pensées des Corinthiens et leur rappelle ce lien fondamental en Christ. Alors pour conclure, t'es dans le corps, ok, mais t'es où vraiment? Dans l'Église, nous sommes tous différents. Et je crois que c'est une beauté de voir aussi cela. Mais c'est ensemble qu'on forme un corps. Chacun à sa place. Et chacun est indispensable. Dieu nous a appelés à vivre ensemble, à œuvrer ensemble, à être solidaires les uns des autres pour l'édification. Faire partie de cette famille, ça renverse les logiques du monde. Notre monde valorise les célébrités, les riches, les performants, les dons spectaculaires. Alors si on veut des musiciens hors pair, alors c'est pas pour critiquer nos musiciens, hein. Si on veut des leaders et des communicants hors pair, dans le monde, on va trouver des gens bien plus qualifiés que nous, plus doués que nous, parce que c'est pas avec ces critères que Jésus a formé son Église. Souvenez-vous de ce que Paul il a dit au début de sa lettre, « Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de l'Évangile, de la prédication de la croix. » Paul, à travers ces chapitres que nous sommes en train de partager ensemble, nous invite à vivre dans cette unité où chacun exerce son don pour le bien de tous et où l'amour, et on le verra la semaine prochaine, est la voie par excellence. Dans l'Église, nous ne sommes pas appelés à être indépendants, mais interdépendants, à nous soutenir, à nous honorer les uns les autres. Si tu te sens inutile, Dieu nous dit tu es indispensable. Si tu te compares aux autres, repens-toi et sois libre. Si tu ne sais pas encore où servir, demande à Dieu, entoure-toi, engage-toi. Et si tu vis l'Église en pointillé, Paul nous encourage à nous reconnecter au corps. Il nous a tous choisis, bras cassés, parfois maladroits, mais pour nous montrer toute sa grâce. Le salut est une grâce, le service est une grâce, les dons sont des grâces. Et parce que ce ne sera pas toujours simple, il y aura des tensions, il y aura des blessures, il y aura des frustrations. Mais c'est dans ce corps justement qu'on va pouvoir apprendre l'amour, la restauration, le pardon, et que cela sera visible pour les autres autour de nous. Et c'est pour ça que le chapitre 13 suit le chapitre 12. Prions pour terminer.